Qu'Orange Monnaie pour le transfert d'argent de la France vers la Côte d'Ivoire, le Mali, le Sénégal. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Bienvenue, merci d'être avec nous. L'antenne vous appartient dans 30 minutes. Gros plan sur la lutte contre le terrorisme au Sahel avec en toile de fond la mobilisation des 5 pays sahéliens pour régler eux-mêmes leurs problèmes de sécurité. En début de semaine, vous l'avez certainement suivi sur notre antenne, les chefs d'État concernés ont insisté sur la nécessité d'une riposte commune, d'où la volonté de mettre en place une force militaire conjointe. L'idée est intéressante, elle est originale, elle n'est pas nouvelle. Le projet avait déjà été évoqué il y a un peu plus d'un an. Désormais, cette force va donc véritablement voir le jour. Reste à savoir comment, avec quels moyens. En tout cas, il y a urgence. Les attaques se sont multipliées ces derniers mois dans la région du Sahel. Si nous n'agissons pas vite, notre espace deviendra durablement un espace terroriste, a prévenu le président tchadien. Alors si vous êtes au Burkina Faso, au Mali, en Mauritanie, au Niger, au Tchad, appelez-nous. Évidemment, vos réactions nous intéressent. Dites-nous quelle doit être la riposte contre le terrorisme. Quelles sont les mesures mises en place dans vos pays respectifs pour combattre les groupes djihadistes. 33 9 693 693 70. Je jette un coup d'œil sur les réseaux sociaux, notamment sur la page Facebook de l'émission. Déjà beaucoup de commentaires. J'en lirai évidemment tout à l'heure quelques-uns pour alimenter le débat et la réflexion. Mais d'abord, comme tous les matins, votre rendez-vous privilégié avec la rédaction d'RFI. Vous nous posez vos questions pour mieux comprendre l'actualité et nos correspondants à travers le monde, nos envoyés spéciaux, nos experts ici même à Paris au sein de la rédaction se font évidemment un plaisir de vous répondre tous les matins à cette heure-ci. Et Pierre Firsion, qui est journaliste au service politique d'RFI, est déjà à mes côtés. Bonjour Pierre.
Bonjour Juan.
Merci d'être avec nous. Des questions concernant une affaire qui embarrasse le Front National et Marine Le Pen. Bonjour Thierno Abdoul.
Bonjour Marie. Bonjour Juan et bonjour à tous nos auditeurs.
Bienvenue sur notre antenne. On vous écoute, vous êtes à Conakry.
Ok. Le Parlement européen réclame 340 000 euros à Marine Le Pen, l'équivalent du salaire de deux assistants parlementaires qui auraient plutôt travaillé pour le FN.
Oui.
De quoi le Parlement européen s'appuie pour réclamer 340 000 euros à Marine Le Pen?
Alors, c'est vrai qu'il y a des soupçons d'emploi fictif qui pèsent sur Marine Le Pen, qui est la présidente du Front National et qui est par ailleurs députée européenne. Pierre Firsion, le Parlement européen qui réclame donc 340 000 euros à la présidente du Front National. Elle avait d'ailleurs jusqu'au 31 janvier hein, pour rembourser cette somme, ce qu'elle n'a pas fait. Sur quels éléments se base le Parlement pour dire, Madame Le Pen, il y a des emplois fictifs dans votre entourage?
Alors, pourquoi est-ce que le Parlement réclame cette somme-là à Marine Le Pen? Si vous voulez, on va revenir au début de cette affaire. Ça remonte à mars 2016. Le Parlement européen soupçonne à l'époque, donc on le disait, 20 assistants parlementaires d'eurodéputés frontistes de travailler exclusivement pour le compte du parti et non pas sur des sujets européens. Alors que l'article 62 du statut des eurodéputés stipule bien que les montants versés aux députés, notamment au titre de l'assistance parlementaire, sont exclusivement réservés au financement d'activités liées à l'exercice du mandat des députés. Alors comment le Parlement en est-il arrivé à cette conclusion? Eh bien, il s'est forgé cette conviction en consultant tout simplement l'organigramme du Front National. Et à partir de là, il lui est apparu que les fonctions qu'occupaient ses assistants au sein du FN n'apparaissaient pas compatibles avec le travail d'assistant parlementaire. Et du coup, il a saisi l'OLAF, qui est l'Office antifraude de la Commission européenne.
Et cet office s'est intéressé plus particulièrement à deux assistants de Marine Le Pen.
Oui, alors d'abord à Catherine Grisé, l'ancienne belle-sœur de Marine Le Pen, qui fut d'abord secrétaire de la présidente du FN, avant de devenir en février 2015 sa directrice de cabinet. Or, Catherine Grisé était ce qu'on appelle une assistante parlementaire accréditée au Parlement européen, une APA, c'est-à-dire qu'elle devait travailler à temps plein au Parlement européen, ce qui, aux yeux de l'OLAF, est apparu incompatible, surtout que, selon le rapport et les conclusions de l'OLAF, Catherine Grisé n'a pas été en mesure de démontrer qu'elle résidait de façon continue ou avec un caractère permanent en Belgique, ni qu'elle se rendait régulièrement sur son lieu de travail, alors que son contrat prévoyait Bruxelles comme lieu de travail. L'OLAF a donc demandé à Marine Le Pen de rembourser les sommes perçues pour rémunérer Catherine Grisé.
Et l'OLAF s'est également intéressé à un autre assistant qui n'est autre que le garde du corps de Marine Le Pen.
Thierry Légier, exactement, hein, vous le disiez, son garde du corps personnel. Lui, il avait un autre statut que Catherine Grisey. Lui, il était assistant local de la présidente du FN dans sa circonscription dès le moment. C'est-à-dire qu'il était chargé de suppléer Marine Le Pen quand elle était absente. Or, là aussi, bien, ses activités d'assistant parlementaire et de garde du corps personnel sont apparues comme incompatibles à l'OLAF. C'est vrai que les deux fonctions apparaissent difficilement compatibles. Hein, difficile d'être à la fois aux côtés de Marine Le Pen et de pouvoir la remplacer lorsqu'elle n'est pas là en région. Du coup, bien, là aussi, l'OLAF a demandé de rembourser les sommes perçues pour payer oui. Thierry Léger.
Donc 40 000 euros à peu près pour Thierry Léger
exactement.
Et un peu
moins de 300 000 euros
exactement.
Pour Catherine Grisey.
Effectivement. Vous avez une autre question, Thierno Adoul?
Oui, Juan. Pourquoi Marine Le Pen refuse de payer les 340 000 euros et pourrait-elle attaquer cette décision en justice?
Alors, je le disais, elle avait jusqu'au 31 janvier pour rembourser donc cette somme, ce qu'elle n'a pas fait. Pour quelle raison?
Eh bien, Marine Le Pen refuse de payer car elle considère que cette décision est politique. Nous sommes jugés par des gens qui sont nos adversaires politiques, a-t-elle dénoncé. Elle a accusé le Parlement européen d'agir en violation de l'état de droit et du droit français. Elle s'indignait que le recouvrement lui soit demandé sans que la justice n'ait eu à se prononcer. Et on rappelle que dans cette affaire, les assistants parlementaires frontistes, il y a une information judiciaire qui a été ouverte à la mi-décembre.
Ouais. Alors, elle refuse de payer, Pierre Firsion, mais le Parlement, lui, a trouvé la parade. Il n'a pas l'intention de se laisser faire.
Hein. Non, il a décidé, lui, d'effectuer une retenue sur salaire ouais. de l'eurodéputé.
Directement à la source, alors.
Voilà. En clair, il va lui retirer une partie de l'argent qu'elle est censée percevoir chaque mois. Et ainsi, il va diviser par deux son indemnité de salaire, qui ne sera plus que de 3 100 euros. Il va lui retirer la totalité de son enveloppe de frais généraux, évaluée à 4 300 euros. Lui retirer également la moitié de son indemnité de séjour. Et ça, chaque mois, jusqu'à ce qu'on parvienne à récupérer les 340 000 euros. Visiblement, elle ne pourra pas contester cette décision en justice. La petite anecdote pour terminer sur cette affaire, c'est que depuis que Mediapart a révélé cette affaire, eh bien on remarque que Catherine Grisey et Thierry Léger ne sont plus nommés. Si vous allez sur le site du Parlement européen, vous tapez Marine Le Pen, eh bien ils n'apparaissent plus comme les assistants parlementaires de Marine Le Pen. Voilà.
À suivre donc.
Voilà, à suivre donc.
On a répondu à vos questions, Thierno Adoul.
Oui, très bien, je suis très ravi.
Voilà, bah écoutez, on a été ravis également de vous avoir sur notre antenne. Merci à Pierre Firsion du service politique d'RFI. Il est 9h17 à Paris, des questions et encore des questions concernant Donald Trump et toutes ses décisions. Je me fais le porte-parole d'Ousmane. On n'a pas Ousmane au téléphone qui est au Bénin. Ousmane revient sur la nomination d'un juge conservateur à la Cour suprême par Donald Trump. Il nous dit aux États-Unis, c'est le Sénat qui confirme la nomination des juges. Il faut 60 voix. Or, les Républicains, nous dit notre auditeur, n'en ont que 52. Alors comment Donald Trump et les Républicains vont-ils procéder pour obtenir les votes manquants? Bonjour Harim Lipold.
Bonjour Juan, bonjour Ousmane.
Et on salue évidemment Ousmane. C'est vrai que la question est d'autant plus intéressante qu'une minorité de démocrates a promis de tout faire hein, pour bloquer cette nomination. Il faut peut-être rappeler, la Cour suprême c'est la plus haute instance juridique des États-Unis. Elle est composée de 9 juges et depuis un an, il n'y en a que 8. Hein,
absolument,
pour que les choses soient
depuis
claires.
Le décès du juge Salia, il n'y a que 8 juges, donc on est à égalité parfaite avec 4 juges progressistes et 4 juges conservateurs.
Alors égalité parfaite, ce qui menace de temps en temps la cour de blocage, hein, puisqu'on a 4 conservateurs, 4 progressistes, et au moment de choisir, de prendre une décision, il peut y avoir blocage, d'où l'importance finalement de ce 9e juge désigné la semaine dernière par Donald Trump. On voit bien qu'il y a un enjeu politique. Que va-t-il se passer dans les prochains jours et les prochaines semaines, puisque les démocrates vont devoir approuver ce par un vote et ils risquent de bloquer.
Exactement. Donc on a besoin de... Enfin, les républicains ont besoin de 8 sénateurs démocrates qui appuient le juge, la nomination du juge Neil Gorsuch. Alors pour l'instant, les tractations, comme vous pouvez imaginer, ils ont déjà commencé dans les couloirs du Sénat. Les démocrates ont dit qu'il n'y a pas question que ce vote se passe à la majorité simple. On veut absolument avoir un vote à 60, à la majorité de 60 contre 40. Donc, il nous faut 60 voix. Donc, il faut ces 8 sénateurs démocrates. Alors, pour l'instant, il y a, semble-t-il, 2 ou 3 démocrates qui semblent être enclins à voter en faveur de Neil Gorsuch. Parce que, voilà, dans 2 ans, il y a à nouveau des élections à mi-mandat. Donc, voilà, ça peut aussi arranger certains démocrates démocrates, peut-être un peu plus conservateurs, finalement, de se ranger derrière les républicains pour des raisons purement électorales.
Et en même temps, les démocrates ne vont pas se laisser faire. On se souvient qu'à la mort donc de ce fameux 9e juge il y a un an, Barack Obama avait tenté de nommer un autre
absolument,
juge. Évidemment.
Et les républicains ont bloqué, ont fait une politique
d'obstruction. Ah ben ils ont tout fait pendant un an. Barack Obama n'a jamais pu nommer ce 9e juge.
Et ça aussi, ça joue dans cette affaire, car effectivement, comme vous dites, Juan, les démocrates sont chauffés à bloc, si je peux dire, remontés contre les républicains qui ont fait une politique d'obstruction contre presque tous les projets d'Obama depuis 8 ans, depuis tous ces 2 derniers mandats. Qui ont évidemment gagné les élections. Donc les démocrates se disent, eh ben maintenant, peut-être nous aussi, on peut faire une politique d'obstruction. Alors il y a une option que pour l'instant, qui n'a pas encore été utilisée, qui s'appelle l'option nucléaire. Alors oula, c'est assez inoffensif.
Le mot fait peur. Hein.
Le mot fait peur, mais rassurez-vous. c'est une option où les républicains, ceux qui ont la majorité au Sénat, en l'occurrence les républicains, pourraient demander un vote à la majorité simple. Ça serait à 50 une voix contre 41. Donc, dans ce cas-là, la nomination passerait sans problème. Alors, le problème, c'est que si on change les règles pour cette nomination, cette confirmation-là, eh bien, on la changera aussi pour les prochaines confirmations. Et c'est pas sûr que ça pourrait, effectivement, ça puisse arranger les républicains.
Bah oui, parce que qui sait, peut-être que dans quelques années, les républicains n'auront pas la majorité au Sénat.
Et ça pourrait bien arranger d'avoir règlement qui demande 60 votes contre 40.
Donc là, on serait à peu près, d'après ce que vous disiez tout à l'heure, à 54, 56.
Voilà, 53, sénateurs. 54 sénateurs en faveur de Neil Gorsuch, sachant que ce processus de confirmation pourrait encore durer des semaines, voire des mois, si ce blocage persiste.
Ouais. Reste avec nous, Harim Lipold. Arfang, bonjour.
Bonjour, Juan Gomez.
Vous nous appelez du Sénégal et vous avez des questions concernant le décret anti-immigration signé par Donald Trump.
Oui. Donald Trump a pris une décision d'interdire à 7 pays qui sont majoritairement musulmans de voyager aux États-Unis. Mais un juge de Seattle a réussi à bloquer ce décret. Comment un simple juge peut bloquer le décret de Trump à l'encontre de 7 pays?
Alors, simple juge, il s'agit du juge fédéral de Seattle, Harim Lipold. Il a suspendu temporairement ce décret, temporairement le temps que soit examinée une plainte, car en fait tout est parti d'une plainte.
Oui, tout à fait. Tout est parti d'une plainte déposée par l'État de Washington.
Par le ministre de la Justice même.
Absolument. Ouais,
de
par
l'État
le ministre de l'État de Washington, par le gouvernement de Washington. Mmh. Et donc, c'est tout à fait normal. Et puis, c'est tout le charme du système judiciaire américain que c'est...
Le charme ou la complexité, ça
dépend après. Ou la complexité de ce système, que c'est donc un juge fédéral de l'État de Washington, en l'occurrence de Seattle, la capitale de Washington, de l'État de Washington, qui s'est saisi de cette affaire. Alors pourquoi ce simple juge, il serait peut-être pas très content de cette appellation, c'est un juge fédéral qui effectivement est en charge de tous les dossiers fédéraux, et comme le décret a une portée nationale, puisqu'il s'agit d'un décret anti-immigration, eh bien c'est normal qu'un juge fédéral se saisit de cette affaire. Et donc c'est un juge de l'État de Washington, puisque c'est l'État de Washington qui a porté plainte. Et ce juge dit en gros que ce décret en fait constitue des préjudices contre des familles, contre aussi des entreprises, contre le pays. Et donc il a donné dans son argument une portée nationale à son arrêté, et donc le gouvernement a saisi la cour d'appel qui est la cour d'appel de San Francisco. Alors pourquoi la cour d'appel de San Francisco? Parce que c'est la cour d'appel de San Francisco qui est responsable des affaires qui concernent l'État de Washington. Voilà, c'est un peu compliqué, c'est encore le charme de ce système
judiciaire. et l'audition, une première audition a eu lieu hier justement, avec cette particularité qu'elle a été retransmise en direct sur les réseaux sociaux. On l'a entendu tout à l'heure dans les différentes éditions d'RFI Matin, notre correspondante à Washington, Anne-Marie Capomaccio. Vous avez une dernière question, Arfang.
Oui, est-ce que Trump dispose d'un recours qui pourra bloquer la décision du juge?
Alors, le recours, Trump a fait appel.
Trump a fait l'appel. On est effectivement en plein recours. On est dans une bataille judiciaire qui vient de commencer avec cette audition dont vous avez parlé, Juan. On attend la décision de cette cour d'appel pour la fin de la semaine. Si la cour d'appel donne raison à ce juge de Seattle, de l'État de Washington, donc le décret anti-immigration reste dans ce cas-là suspendu, eh bien, il y a des forte chance que Donald Trump portera l'affaire devant la fameuse Cour suprême.
D'accord. Donc il va falloir très vite.
Très intéressant.
Donc il va falloir très vite qu'il débloque la nomination du neuvième juge pour être sûr que la Cour suprême demain valide son décret.
Une majorité. Ah, oui. Voilà.
Passionnant. Merci beaucoup, Arim Lipold, d'être venu répondre à quelques-unes des questions concernant la vie politique américaine. Et on continuera évidemment dans les prochains jours à recueillir toutes vos questions sur les décrets, les décisions, les premiers pas de Donald Trump à la Maison-Blanche. Tiens, on va continuer à parler du décret anti-immigration signé par le président américain avec des répercussions et des conséquences, vous allez voir, autres que celles qu'on a pu aborder ces derniers jours sur nos antennes. Bonjour Noël. Allô, allô Noël.
Oui, allô.
Oui, bienvenue sur notre antenne. Vous êtes à Abidjan, on vous écoute.
Oui, Juan, j'ai appris sur votre antenne le lancement de la campagne internationale pour l'attribution des Jeux Olympiques de 2024. Alors, à ce sujet, j'ai deux questions. Concernant la candidature de Los Angeles, est-ce que le décret anti-immigration ne va pas être un obstacle à cette candidature?
Ah, c'est une excellente question. C'est vrai que de plus en plus de voix, surtout à Los Angeles, s'inquiètent et ne cachent pas leurs inquiétudes. Armand de Rendinger est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Expert et consultant en sport international et en olympisme, on vous doit notamment La cuisine olympique, quand la France se pique au jeu, publié aux éditions Temporis. Si ce décret anti-immigration est confirmé, est-ce que vous pensez que la candidature de Los Angeles est sérieusement menacée, puisque on voit bien que ce décret peut avoir des conséquences sur le monde du sport?
Ah ben, il est évident que si ce décret est confirmé, sera une incidence. Est-ce que sera une incidence à un point tel où ça va plomber définitivement la candidature de Los Angeles? Je suis plus dubitatif. Parce que, actuellement, le monde olympique, considère que, bien sûr, toute discrimination est contraire aux valeurs olympiques. Donc, c'est très mauvais pour Los Angeles. Mais le CIO considère que les États sont souverains en la matière. Et s'il n'intervient pas le CIO pour dire très clairement qu'on ne peut pas accorder les Jeux, mais d'une manière officielle, à un pays qui fait de la discrimination et contre le ballon olympique, ça aura une incidence. S'il ne le fait pas, qu'il négocie, ce qu'il est son habitude, qu'il fait toujours lorsqu'il y a des problèmes de cette nature, parce que la géopolitique domine toujours, ça aura une incidence sur quelques voix, mais non pas forcément sur l'ensemble des voix. Ouais. Mais il est clair que ça a une incidence, au même titre que tous les événements politiques qui vont maintenant arriver, qu'ils se produisent sur le territoire hongrois ou sur le territoire français, de la même manière. Tout devient géopolitique. De toute
oui,
façon.
Bien sûr, mais bon, là, nous parlons des Jeux de 2024, donc c'est un peu loin. Mais enfin, si ce décret reste en vigueur, si je comprends bien, les sportifs libyens, soudanais, somaliens, iraniens, irakiens, syriens ne pourront pas, théoriquement, si on en croit le décret signé tel quel par Donald Trump il y a 10 jours, tous ces sportifs ne pourront pas rentrer sur le territoire américain et participer aux JO.
Absolument, c'est contraire aux valeurs olympiques qui interdit toute discrimination. La valeur principale, c'est l'universalisme. Et s'ils le maintiennent, et si le CIO n'intervient pas pour empêcher, non pas pour empêcher ce décret, mais pour bien signifier aux États-Unis qu'une telle confirmation d'un décret aurait une incidence sur le vote parce qu'il ne peut pas l'accepter. Mais je suis dubitatif sur l'attitude qu'aura le CIO sur le plan politique de cette nature. Je crois qu'il sera dans une attitude du wait and see. Mais le wait and see peut être effectivement préjudiciable à la candidature elle-même, notamment vis-à-vis d'un certain nombre de pays musulmans.
Ouais, verdict en tout cas au mois de septembre, le 13 septembre il me semble, si ma mémoire est bonne. Je rappelle que 3 villes sont en concurrence, Los Angeles, Budapest et Paris. Et je sais que Noël avait une question à vous poser sur la candidature parisienne. On vous rappellera, c'est promis, tous les deux, peut-être demain ou après-demain. On gère ça évidemment hors antenne. D'autres questions à la rédaction de demain matin à 9h10 heure de Paris, 8h10 temps universel. D'ici là, surtout n'hésitez pas, appelez-nous, l'équipe vous attend, le standard reste ouvert toute la journée, on réceptionne vos questions. 33 9 693 693 70.
Retrouvez Appel sur l'actualité après le journal avec Orange Monnaie, leader du Soul Banks, le lauréat du prix Découverte.